Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic 101. Mon nom est Guillaume, je suis votre animateur. Et pour se joindre à moi en ce 19e épisode, il est de retour. Nul autre que Renaud Giraldo. Salut
Bonjour, je
Renaud.
pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, les Wastelands étaient 25 cents.
Je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, en fait, c'était les vacances de la construction. Ça fait quand même un bout, ça. Je suis content de te retrouver, Renaud. On a eu le dernier épisode, c'était avec... un petit peu, là.
Raphaël
Raph,
Boisvert.
Excuse Raph, mea culpa, je t'aime.
À défaut de mieux.
À défaut de mieux, notre Raph. Et le rire que vous entendez en arrière-plan, c'est nul autre que Monsieur Ricky Chin. Ricky Chin, allez, j'aurais dû clarifier ça avant de commencer l'épisode.
Ouais, c'est exactement ça.
OK. Lequel des deux? Ricky Chin?
Ricky Chin.
Ricky Chin, excellent. Fait, je t'appelle Ricky ou Ricky, parce que sinon je...
Ben, les deux, ça ne me dérange pas.
Les deux, ça ne dérange pas. Parfait. Ben, bienvenue à la balado Magic 101. C'est le fun de t'avoir parmi nous. Écoute, moi, je vais être franc avec toi. Je t'ai découvert dans un pro tour de top 8.
Dans un pro tour de top 8. Non, c'est ça.
Un pro tour de top 8.
Dans un top 8 de pro tour.
Les gars, je reviens. Je vais aller me chercher une bière. Ça va régler bien les affaires. Non, c'est pas ça, je vais me concentrer. Là. Mais bref, c'est ça, je t'ai découvert dans la couverture de cet événement-là, qui est le Pro Tour, et j'ai appris par le fait même que donc c'était ton premier Pro Tour. Ça a évidemment attiré notre attention. Un joueur québécois qui a sa première apparition au Pro Tour fait le top 8, c'est plutôt impressionnant. Mais je sais que toi, Renaud, tu connaissais notre ami Ricky, non?
Oui, tout à fait. Pour être allé jouer à Drummondville quelques reprises lorsque j'habitais à Sherbrooke.
Puis est-ce que tu perdais contre qui?
Ben, je vais pas souvenir, mais ah. Oui, puis non.
Je pense qu'on jouait tant que ça contre dans des
événements. Non, on n'a pas joué tant que ça contre. Je jouais plus souvent contre des gars de Sherbrooke parce qu'on arrivait à 8.
C'est ça. Sherbrooke débarque à Drummond. Ben, écoute, Ricky, vraiment content d'avoir parmi nous. Dans le fond, je commencerai l'entrevue avec des petites questions générales, un peu savoir, ça fait longtemps que tu joues à Magic. Comment tu as commencé à jouer, puis aussi, ça a été quoi tes débuts sur la scène compétitive? Parce que pour moi, c'est quelque chose qui, je pense, qui peut être intéressant à savoir pour certains de nos auditeurs, parce que c'est pas toujours évident de savoir comment on se lance. Parce que là, on a vu que tu es arrivé dans un top 8, mais comment on se lance vers Magic pour jouer à ce jeu-là, mais de manière plus compétitive, de manière comment toi, tu t'es rendu là et... tranquillement nous monter vers ta préparation pour le Pro Tour. Donc, comment t'en es arrivé à jouer à Magic compétitivement?
Une bonne question. Ben, en fait, j'ai commencé du début. J'ai commencé à jouer à Magic, ça fait peut-être 12 ou 13 ans, je dirais. Dans le fond, avant ça, mon frère y jouait. Fait que ça a fait que finalement, j'ai aussi commencé à jouer au Magic. Okay. Mais pendant tout ce temps-là, on jouait un peu plus pour le fun. En tant que quand tu es plus jeune, tu ne joues pas nécessairement compétitif parce que souvent, les cartes coûtent cher. Puis aussi, dans ce temps-là, il n'y avait pas nécessairement Internet avec tous les decks, tout ça. Fait qu'on jouait n'importe quoi un peu. Mais c'est vraiment, il y a peut-être, il y a peut-être 2 ans que j'ai recommencé à jouer plus sérieusement.
OK. C'était quoi le format? C'était Terrex?
C'était Return to Ravnica.
OK, ouais. J'ai recommencé pas mal en même temps.
Ouais, dans le fond, c'est vrai, dans ce bout-là que j'ai recommencé à jouer.
OK.
L'année passée, j'ai fait mon premier gros événement à vie. Dans le fond, Grand Prix Montréal en 2014.
Okay.
Avant ça, je n'avais jamais fait ni de PTQ, ni de Grand Prix ou n'importe quoi de genre-là.
Okay.
Puis, ben, tu sais, ça a été pas très bien. J'ai peut-être fait 4-5 en première journée ou quelque chose comme ça.
Comme Renault, mettons.
Ouais. Mais.
Je ne veux pas là.
C'est correct. Continue à pas suivre, ça va bien.
Bon. Puis, c'est ça. Dans le fond, dans l'année, j'ai fait d'autres PTQ.
Okay.
Je n'ai pas fait top 8. En fait, je n'ai peut-être fait 3 ou 4, je pense.
OK. Fait que t'es un late bloomer.
Ouais. Ben, dans le fond, c'est que. Dans le fond, j'avais arrêté de jouer pendant un bout de temps, peut-être 3 ou 4 ans avant que je recommence. Fait que.
C'est ça. Okay. Puis là, quand t'as recommencé, t'es allé à ce Grand Prix-là, t'as fait quelques PTQ. Est-ce que t'as changé quelque chose dans ta préparation pour prendre un niveau comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, bonne question. Dans le fond, selon moi, je vais tout le temps un peu de facilité au Magic, si on peut dire. Mais il a fallu que je prenne l'habitude de participer à des gros tournois, là, parce que c'est la préparation, des fois c'est le stress et tout ça. Fait que dans le fond, l'année 2014 a un peu servi à ça.
Ouais.
Puis cette année, Dans le fond, ça a commencé super bien, là. Dans le fond, en janvier, j'ai fait plus de 2 PTQ.
Okay.
Le premier que Asselin a, dans le fond, gagné, puis qui a été au Pro Tour avec. Puis, ça m'a un peu dit, bon, ben, les efforts que je mets dedans, ils commencent à payer.
Puis quand tu parles d'efforts, justement, si on prend, toi, ça a l'air de quoi ta routine de préparation? C'est plus Magic Online? C'est d'aller jouer dans les
boutiques? Oui, la majorité, dans le fond, dans ce temps-là, c'était beaucoup standard, les tournois. Puis ben, j'avais autant le deck online que dans la vraie vie. Là, j'avais le même. Puis je jouais beaucoup de daily, beaucoup de 8-man. Okay. Vraiment pour me préparer dans les tournois, pour voir tous les match-ups. Puis il y a-t-il des affaires que je change, puis sideboard, puis tout. Mm-hmm. Fait que c'est surtout Magic Online, je joue un peu aussi dans la vraie vie, sauf qu'il y a moins de personnes qui veulent aussi jouer compétitif, fait que dans le coin de Roman, là, à chaque fois. Fait que c'est pour ça que c'est plus difficile dans la vraie vie, mais online au moins tu peux jouer autant que tu veux, que c'est une bonne façon de se préparer pour les tournois.
Ouais.
Fait que ça, dans le fond, j'ai fait gros ça pendant le temps des fêtes, c'est bizarre à dire, mais je travaillais pas dans la période des fêtes. Fait que dans le fond, ça m'a justement préparé pour les premiers tournois de l'année.
Okay.
Puis après ça, ben, dans le fond, j'ai pris un peu le beat des tournois avec plus de rondes, tu sais, ceux qui ont souvent 6, 7, 8, puis des fois 15 rondes, ben, les Grands Prix.
Ouais, ouais.
Fait que dans le fond, c'est de s'habituer. Puis après ça, ben, c'est une fois que tu es à l'aise, ben, c'est de choisir un bon deck. Là.
Ouais. Fait que, qu'est-ce que, dans ce cas-là, là, tu es arrivé, tu t'es préparé pendant le temps des fêtes. Là, c'était le Grand Prix de Montréal, dans le fond, si je ne me trompe pas,
début. Le premier de l'année, je pense que c'était Grand Prix Ottawa.
Oui, OK, c'est vrai.
Et lui, dans le fond, je pense que je n'ai même pas fait des tours. Okay. C'était limité.
Comme Renaud.
Après ça. Là, tu as deux gardes avec mon tour. Que c'était standard, puis j'ai fait des tours. Puis j'ai fait en 10-5, je crois. Dans ce temps-là, ça ne donnait pas de pro points à 10-5.
OK.
Après ça, il y avait, dans le fond, les PPTQ ont commencé. Puis là, je pense que j'en ai gagné un. Puis après ça, ça a changé de saison. Puis j'en ai gagné un autre tout de suite après. C'était vraiment bizarre. Puis là, après ça, il y a eu le RPTQ, je crois.
Oui, ouais.
Ouais, que dans le fond, je ne m'attendais pas vraiment. C'est bizarre à dire, mais en participant là, je ne m'attendais pas à faire top 4. Parce que c'était limité.
Ah ouais, OK.
Mais ça a l'air que j'avais un bon deck, puis ben, ça a bien sorti. Puis,
c'était quel format?
C'était Cannes, ouais.
OK.
Puis ça, j'ai fait top 4, c'est ça qui m'a amené au Pro Tour. Là.
OK. Fait que tu t'es qualifié au Pro Tour en limité quand
ouais, j'ai fini top 4 dans le RPTQ, puis okay. ça m'a qualifié pour le Pro Tour.
Mm-hmm. Puis là, tous ceux qui ont dit que tu t'étais rendu là juste grâce à la force de ton pool, ben aujourd'hui, ils mangent leur bas.
Ouais. Ouais. Ben écoute, tu sais, des fois, ça peut arriver une journée que ton deck est tellement bon qu'il gagne tout seul. Mais, mm-hmm. Après ça, dans le fond, après ça, là, il y avait Grand Prix Montréal, je crois.
Ouais.
Ouais. Que, dans le fond, si première journée, je finis 7-2. C'était correct, mais sans plus. Salut. Après ça, j'étais, la deuxième journée, j'étais 5-0. Si je gagnais ma dernière ronde, j'étais top 8. Mais finalement, celui contre qui j'ai joué, il y avait un deck incroyable. C'était draft la deuxième journée. Fait que...
Oh, il y a moyen de torcer des solides decks.
Ouais, il y avait son deck, il y avait tout. Là. Il y avait deux Dramoka Command, il y avait toutes les bonnes créatures vertes. Je me demandais s'il ne jouait pas le standard.
Oh.
Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai fini, je pense, 24e.
OK.
Fait que je me suis dit, ben, c'est le meilleur score que j'ai fait à vie dans un Grand Prix. J'étais bien content, même si à la fin, j'étais déçu de ne pas avoir fait top 8.
Ben ouais, c'est sûr.
Fait que, dans le fond, il y avait ça. Après ça, il y a eu comme une période qui avait, je pense, pas beaucoup de tournois, là, parce que je pouvais pas faire de PPTQ. Puis le RPTQ était juste plus loin, puis le Pro Tour était juste après. Fait que, dans le fond, j'ai presque pas joué au Magic. Je dirais pendant comme un mois et demi, deux mois. Puis, dans le fond, avant le Pro Tour, c'est là que j'ai un peu plus joué. Okay. Autant limité online. Standard, dans le fond, j'avais pas le deck online. Fait que j'ai pratiqué, comme j'ai dit dans une entrevue, là-bas, dans le fond, je pratiquais surtout avec Hugo. On a monté les decks en proxy. Au début, je testais un autre deck qui n'était pas très bon. J'avais testé un Temur que j'avais fait et le deck était moyen. Dans le fond, il sortait bien des fois, mais pas d'autres fois. Puis je me suis dit, un deck un peu plus constant.
Pauvre Savage Knuckle Blade que personne ne joue.
Ouais, mais il est super bon, mais je sais pas, il est juste pas assez bon peut-être.
Ouais, OK, fait que finalement, tu as décidé d'aller pour vers Lamégamore.
Ouais, dans le fond, quasiment la semaine avant le proto, dans le fond, justement, j'avais été faire un PPTQ. Puis, finalement, mon deck, justement, Temur, il avait sorti moyen. Mm-hmm. Puis, j'avais parlé avec Phil. Puis, je me suis dit, bon, ben, il y a l'autre deck que je voulais jouer, c'est Green-White Megamorph, parce que je trouvais que le deck, toutes les cartes dans le deck, ils sont bonnes. Fait que, mais peu importe comment il sort, il devrait bien aller. Ouais, puis, je l'ai testé, puis j'ai trouvé que le deck était vraiment, vraiment bon. C'est ça que j'ai décidé de prendre pour le proto.
Ouais, bon choix. Puis, si je me trompe pas, t'as pas perdu de match en standard avec ce deck.
Exact. Ouais, j'ai fini 8-0-2.
Ce qui est quand même solide. Le deck était très bien positionné dans cette metagame.
Je suis surpris qu'il n'y avait pas d'autres dans le top 8 parce que vraiment, moi je trouvais qu'à ce moment-là, le deck il battait pas mal tout.
Ah ouais. Puis en limité, dans le fond, tu disais que tu t'es préparé sur Magic Online essentiellement.
Ouais, dans le fond, le release a été sur Magic Online comme le jeudi d'avant ou le vendredi d'avant. Ouais. Fait que j'ai eu une fin de semaine le lundi à peu près là, pour faire des drafts parce qu'après ça, j'ai pratiqué standard puis là-bas. Là. Okay. Fait que dans la fin de semaine, j'ai fait à peu près une douzaine de drafts sur Magic Online. Fait que j'ai pu essayer beaucoup d'archétypes, voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui marche moins bien. Puis,
écoute, je vais profiter de ce moment-ci parce que Renaud, dans le fond, et moi, on a été peu actifs dans le format limité. Moi, j'ai fait quelques drafts. Je connais les archétypes, j'ai lu un peu, mais admettons qu'on voulait là, repartir Renaud et dire « Renaud, tu reviens. Par où passer pour décortiquer ce format-là, selon toi? »
je vais jouer limité. Là. Ah.
Mais admettons. Mais en fait, ou n'importe quel auditeur qui veut jouer en limité, Battle for Zendikar, c'est quoi selon toi, peut-être les archétypes clés qu'il faut connaître pour être capable de bien drafter ce format-là?
En fait, c'est bizarre à dire, là, mais presque tout est jouable.
Okay.
Il faut juste que tu sois capable de trouver qu'est-ce que le monde finalement il joue pas.
Okay.
Parce que red, dans le fond, rouge, blanc, Ali, c'est super bon. Le deck est gros. Noir, bleu, Ingest, Eldrazi et tout, c'est super bon. Toutes les. Dans le fond, rouge, vert, Landfall aussi. Blanc. Dans le fond, selon moi, la meilleure couleur dans le format, c'est blanc.
Ah ouais, OK.
Dans le fond, blanc, bleu, contrôle est super bon. Blanc, bleu, awaken. Aussi, c'est un autre dans mon deck. Dans le fond, tu peux pratiquement jouer ce que tu veux. Le monde a l'air de dire que le vert est la moins bonne couleur, mais le vert est correct si tu as les bonnes cartes. Mais vraiment, si tu te concentres sur un archétype, parce que j'ai joué aussi online blanc-noir, gain life, qui est un peu bizarre avec des vampires, mais si tu as les bonnes cartes, ça fonctionne. Blanc-noir, Ali aussi, ça peut être un bon deck.
OK. Fait que c'est vraiment un format axé sur les archétypes, finalement. Essentiellement, c'est ça qu'on se
parce que tu pourrais te retrouver avec bleu, rouge, comme le laisse, là. Ouais, exact. Puis, il y a tellement de bonnes cartes là que tu peux. Si tout le monde te passe ça, ben, tu les prends puis tu peux faire un bon deck avec ça.
OK. Fait que, au niveau du Pro Tour, est-ce que ça, lire la table, lire les cartes qui sont là, c'est plus difficile que, disons, sur Magic Online? Est-ce que tu sentais que le niveau était plus difficile ou est-ce que, justement, vu que tout le monde choisit vraiment une ligne, on sent que les archétypes sont peut-être plus fine-tunés, comme on dit, là? Dans le fond, c'est que j'ai l'impression qu'avec des pros autour de la table, tout le monde prend la meilleure décision possible, ce qui fait que peut-être, je dirais pas que c'est plus facile de drafter, mais peut-être que les signaux sont plus évident, est-ce que je me trompe?
C'est ce que je pensais aussi, mais on dirait que pour moi, les bonnes cartes, c'est peut-être pas les mêmes qu'eux autres.
Okay, ouais.
Parce que sur la première table, là, j'ai la photo que j'avais pris. Tu sais, j'avais Alexander Hain, VBD, Craig Wesco, puis je pense qu'il y avait un autre bon joueur. Tu sais, j'ai drafté Red White Ali.
Okay.
Puis tout le monde me passait toutes les cartes. Là. J'avais deux fois les rares, les uncom, j'avais tout pour le deck. Là. Fait qu'eux autres, peut-être qu'ils se sont dit que ce deck-là, il n'est pas très bon. Mais
j'ai l'impression aussi que les pros étaient très, très axés sur le bleu. J'ai vraiment l'impression que bleu, là, c'était perçu comme étant la couleur que tu sois parce que ça peut t'amener vers bleu, noir, bleu, blanc.
Mm-hmm. Mon deuxième draft, là, j'ai voulu avoir soit le Unsummon Awaken ou lui qui tape une créature Awaken.
Ouais.
Puis, il a fallu que, dans mon troisième pick, que je le first pick, sinon je n'ai pas vu un seul.
Ouais, c'est ça.
Dans mes trois boosters, il n'y en a jamais un qui m'est passé. Fait que mon troisième, je l'avais dans mon booster, je me suis dit, bon, ben, j'en avais absolument un, fait que j'ai les first pick au lieu de la rare ou de l'uncom, parce que sinon, je savais que j'en verrais pas d'autres.
Hein. OK. Et là, on a déjà dit que ta portion standard était super bonne. T'avais, en entrant dans le top 8, tu avais trois défaites?
Deux.
OK. Et donc, là, tu as eu tes deux défaites en limité, tu es entré dans le top 8 et là, ce n'est que standard. Tu dois bien te sentir en arrivant dans le top 8 avec ton deck.
Mon premier adversaire, dans le fond, round de top 8, j'avais déjà battu à round 14.
OK.
Fait que... J'ai gagné 2-1 contre, puis c'est pour ça que je me disais, bon, ben, ça devrait bien aller première round de top 8.
Ben ouais, fait que t'es arrivé là avec confiance, puis qu'est-ce qui est arrivé?
Gamer, dans le fond, j'ai gardé une main à deux lames, qui je crois qui était correct. Okay. J'avais comme deux ou trois tours pour piger un land. J'avais oublié qu'il pouvait, dans le fond, faire Jeske Charm sur ma créature et la mettre sur le tas de mon deck.
Okay.
Parce que mon land, il était là où il devait être, mais il m'a comme fait perdre un tour.
Mm-hmm.
Finalement, je ne l'ai pas pigé. Puis, ben, lui a juste joué ses cartes au bon tour, tandis que moi, il a fallu tout le temps que je sois un tour en retard. Fait que finalement,
aucune chance.
Ouais, j'ai eu de la misère là. Game 2, j'ai gagné, fait que ça a quand même bien été.
Mm-hmm.
Puis, ben, Game 3, j'aurais probablement pu jouer différemment, puis peut-être pouvoir gagner. Parce que, dans le fond, il y a un play que j'aurais pu faire. Dans le fond, en gros, il y avait beaucoup de créatures sur le board. Il y avait un Mantis Rider, un Wingmate Rock avec son ami Oiseau.
Mm-hmm.
Puis, dans le fond, moi, j'avais genre rien pour bloquer le flying. J'aurais pu m'arranger pour que mon Angerback Walker meure.
Ouais.
Puis j'avais des bloqueurs, sauve Manissa, éventuellement j'aurais pu piger quelque chose pour me sauver. Mais j'ai décidé de juste pas faire mourir mon Angerback Walker pour tuer sa créature. Finalement, probablement que ça a été la mauvaise décision, là, mais je peux pas dire exactement parce qu'il a fallu que je pige des cartes me sortir de là. Mais ouais. En gros, probablement que j'aurais pu jouer mieux. Mais ça va donner comme ça.
Ouais, écoute, il y a tellement de décisions à prendre. Des fois, on prend une ligne, puis on espère que les cartes vont
tomber. Sur le coup, c'est bizarre, mais tous les feature matchs, puis j'ai pas été stressé du tout. En tout cas, l'impression que j'avais.
Mm-hmm.
Mais on dirait que sur le coup, à certains moments, j'étais pas capable de penser, bon, mais c'est quoi la meilleure chose à faire, de quelle façon qu'il faut que je le fasse.
Okay.
C'est pas nécessairement de la pression ou du stress, mais je sais pas, tout d'un coup.
Ouais, le contexte fait que tu m'as pu pouvoir penser aux bonnes choses.
Ouais, parce qu'il y avait, tu sais, il y a comme deux juges à côté, une personne qui parle pour la caméra, puis tout, en arrière, il y a plein de choses. Puis là, ben, on dirait que sur le coup, comme il y a une fois, il m'attaque avec un Jace, puis là, je me dis, il doit avoir quelque chose, tu sais. T'sais, on t'appuie d'un proto, il doit avoir une raison. Puis là, finalement,
oui,
exactement. Mais sur le coup, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y en a juste un en 7, je me suis dit, ça ne peut pas être ça. Mais là, finalement, c'était juste ça. Il n'y avait pas de combat trick. Là. Il y avait juste un.
Ah, ouais, OK. Fait finalement.
Tu n'as pas bloqué.
Non, c'est la game 2. J'ai fini par gagner quand même, mais je me suis donné du trou pour rien. Là. Il a fallu que je tue son Jace par après, puis son Wingmet Rock. Puis...
Ouais, mais c'est intéressant ça quand même. Moi, ça m'amène sur une. Ça va peut-être pouvoir intégrer aussi Renault dans la discussion.
Mais moi, j'ai une question pour Ricky.
Ben oui, vas-y.
J'écoute.
Comment ça savoir ta préparation à limité à qui tu parlais pour te préparer à limité? Parce que ben, de ce que je sais de Drummondville un peu, les drafts, c'est pas. C'est pas. En tout cas, dans le temps que j'y allais, là, c'était pas. C'était pas le numéro un de, mettons, des joueurs. Puis il n'y avait pas comme une. C'était pas aussi concentré que mettons, à Sherbrooke ou à Montréal.
Pas mal personne. Dans le sens que, tu sais, on a un groupe Facebook, puis je postais les photos de draft que je faisais, là, à chaque fois. Puis, bon, ben, ronde 1, c'est, mettons, 2-1 contre telle affaire, contre ronde 2, telle... Mais, non, je dans le fond, je draftais bien gros, puis j'essayais des choses, puis je regardais aussi ce que l'autre jouait, puis c'était pas mal tout, là. J'avais pas vraiment de personne avec qui je parlais de draft, là. J'ai juste...
Tu t'es fié à ton jugement, puis...
Ouais, ouais.
Ça a été ça. T'as-tu lu des articles sur Internet?
Non,
en as-tu
non,
lu... Ah, non, il y en avait
non,
pas.
J'ai pas trouvé d'article. Ben, j'ai pas cherché non plus.
Fait que tu t'es posé des questions toi-même sur le format, puis comment...
Ouais, ben, dans le fond...
Trouver des réponses toi-même.
Ouais. Draft, c'est... Tu sais, c'est bizarre à dire, mais draft, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps, j'ai des créatures, des combat tricks, qu'est-ce que tu décides de faire. Dans le fond, tu sais, c'est tout le temps un peu la même affaire, c'est juste les cartes qui changent. Fait que si tu sais comment monter un deck, comment drafter, avoir une curve qui a de l'allure, un bon nombre de créatures, un bon nombre de spells, tout le reste, on s'en fout un peu. Mais c'est sûr que dans ce format-là, il fallait avoir de la pratique parce qu'il y a beaucoup d'archétypes. Là, mais en général, en draft, c'est tout le temps la même chose. Puis je l'ai vu à Montréal aussi. T'sais, c'était un autre format. J'en avais pratiquement pas fait. J'ai fait comme deux ou trois drafts. Puis finalement, jour 2, j'ai fait 3-0 puis 2-1 les drafts. Juste parce que ben, tu drafts un bon deck, tu le joues bien, puis normalement, ça se peut que tu pognes quelqu'un qui n'est pas exactement super bon en draft, fait que là, ben, lui, son deck, il est moyen, fait que tu vas juste le battre parce que tu as un bon deck. L'autre, ben, tu vas le battre peut-être parce que tu joues mieux.
Ça, puis j'ai l'impression, je pense à. Tu t'as parlé que tu as fait le Grand Prix de Montréal qui était Khans of Tarkir.
Ouais.
Le format Khans of Tarkir, il y avait beaucoup de choses à savoir in-game, pendant que tu jouais le match. Toutes les cartes morph, fallait que tu connaisses, c'est quoi la possibilité qu'ils fassent ci, ça. Je trouve que Battle to Zendikar, pour l'avoir drafté quelques fois, sans être spécialiste comme toi, tu me corrigeras si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est plus un draft qui se passe autour de la table quand tu drafts. C'est là que ça se passe. Mais si tu montes un bon deck après ça, comme tu dis, c'est un peu un format où tu mets des créatures, il va te les péter, tu vas sortir une autre créature, tu vas aller en combat. C'est pas si tricky que ça à jouer une fois que tu as décidé quel deck tu allais jouer. C'est sûr qu'il y a certaines cartes, peut-être Ingest Process, là, le bleu-noir, peut-être que lui c'est le plus complexe, peut-être, mais sinon, effectivement, je trouve que c'est difficile à drafter parce qu'il faut que tu aies dans un archétype, mais une fois que ton deck est monté, c'est un format qui sur la table se joue. De manière assez straightforward, dans ce cas de mon expérience. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais.
Ouais, je suis d'accord parce que, dans le fond, tu le sais une fois que tu as fini de drafter si c'est un bon deck ou pas. Dans le fond, si tu. Comme exemple, là, même, si je dis ça, mais en même temps, selon moi, mes deux decks étaient super bons. Ouais. Le premier, je vais être 1-2, puis le deuxième, je vais être 3-0. Fait que, c'est peut-être.
Ça dépend comment ça tombe aussi. C'est un deck limité. Hein?
C'est sûr.
Ben moi, c'est ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que où est-ce que tu étais tantôt, où est-ce que tu disais, quand j'étais dans le top 8, tu m'as dit, quand j'étais en feature match, je sentais pas de stress, tout ça, mais il y avait comme une espèce de, on va appeler ça un bruit de fond, où tu penses pas exactement comme quand t'es, disons, dans un magasin tranquille, que t'es concentré sur ton match, mais on dirait que tu sais quelles sont les bonnes décisions. Est-ce que c'est ça la pression, finalement, c'est de toujours un peu avoir en tête l'enjeu, puis du contexte, puis de ne pas être capable de se concentrer sur la partie que tu es en train de jouer?
Oui, j'ai parlé avec beaucoup de monde pendant la fin de semaine qui disait ça, il faut juste profiter du moment, puis tu sais pas quand ça va revenir, tout ça. Puis tout le long que je jouais là, dans les rondes, au début, mon objectif, c'était jamais de faire top 8.
C'est fou.
Avant, c'était je vais faire la deuxième journée. Puis là, quand j'ai fait la deuxième journée, je vais finir dans l'argent. C'est ça mon objectif. Puis je faisais juste jouer mes matchs. Puis, je me dis, tant que j'en ai gagné une coupe, je vais finir dans l'argent, ça va être correct. Mais je pense que c'est parce que, rendu dans le top 8, j'avais quelque chose à perdre, dans le sens que je savais que je pouvais gagner. Peut-être que j'avais plus de pression à ce niveau-là. Puis je jouais pas juste ma game de Magic que je jouais tout le temps. Je pensais plus qu'il fallait, ou je ne peux pas dire.
Oui, c'est ça. Moi, je fais du chant là, de quand même haut niveau. Là, puis c'est un peu ça. À un moment donné, quand tu es dans une certaine situation où les enjeux sont élevés, qu'il y a de la pression, que tu chantes devant un grand auditoire, tout ça, à un moment donné, tu te mets à penser à autre chose que ce que tu es en train de faire parce que le contexte est imposant, parce que si, toi, mettons, les caméras, l'enjeu, puis tout ça, tu y penses pas constamment, mais ça vient, on dirait, un peu interférer avec ta pensée.
Puis, hashtag Carnegie Hall.
mettons, tu sais, mais il y a plein de choses, puis je pense que ça se transpose à Magic. C'est pour ça, Renaud, tantôt, je disais peut-être que tu peux... je pense que tu es un gars qui a performé à différents niveaux, mais il y a comme quelque chose, à un certain moment donné, où je suis pas sûr que tu amènes ta meilleure game dans certains contextes où il y a quelque chose, justement, un enjeu. Je sais pas si ça a rapport avec ce que Ricky nous dit, justement, cette espèce de focus-là que certains joueurs réussissent à avoir. Puis moi, je pense que tu l'as clairement eu. Mais peut-être que dans le top 8, ça t'est glissé entre les doigts. Mais c'est pas un focus facile à conserver quand il y a un enjeu vraiment important.
Surtout que...
Tu sais qu'il y en a pour qui c'est culturel.
OK. Explique.
Ben la résilience, le flegme, là, comme les Japonais ont beaucoup ça.
OK.
Puis il y en a d'autres que c'est de l'expérience, je dirais, là. Des gars comme Owen Tettenwald, ben, ils devaient se sentir à peu près comme Ricky se sentait lors de leur première grosse performance. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, ils sont rendus à l'aise parce que c'est de l'expérience. Fait que, je pense qu'il y en a qui ont ça. J'ai dit les Japonais, là, mais c'est pas quelque chose d'ethnique, je pense que c'est quelque chose de culturel. Il y en a d'autres pour qui c'est de l'expérience.
Ouais, parce que si
tu puis, t'habitues... Puis si ça arrive, Ricky il va sûrement se sentir mieux la prochaine fois.
Oui, c'est bizarre à dire, mais tu sais, la fin de semaine d'avant, tu sais, Rick, j'avais eu un feature match aussi avant dans le Pro Tour, là, mais tu sais, ma day two de Grand Prix Québec, ça commence, feature match contre Charles Schoenherr, puis là, je me dis... Mm-hmm. Ça part fort.
Ouais.
Finalement, ça a super bien été, puis j'ai gagné 2-0. Mais j'étais vraiment pas stressé. Puis ben, il était sympathique, fait que ça aidait. Là. Si, quand la personne est plus bête devant toi, t'es moins à l'aise. Mais moi, ça a super bien été. Fait que j'imagine que le match que j'ai eu dans le top 8 a aidé pour m'habituer.
Moi, la chose qui me surprend, le fait que tu avances ça, là, que tu puisses avoir été confronté là, à un stress ou quoi que ce soit par la pression que ça donnait d'être dans le top 8, ce qui me surprend, c'est que tu dises ça me surprend. Parce que les personnes que tu as battues pour te rendre là. Écoute, il y a eu John Stern, il y a eu. T'as battu Craig Wesco aussi, je pense?
Non, dans le fond.
Cuneo, Andrew Cuneo? Oui. En tout cas.
Dans le fond, Day 2, j'ai battu back-to-back Martin Yuza, Cuneo, puis John Stern. C'est ça mes trois rondes de draft. Puis je ne m'attendais jamais à les battre parce que je m'attendais à finir.
Tu passes des drafts à Drummondville? Un des meilleurs joueurs à limiter dans le monde. Un des meilleurs joueurs canadiens à limiter dans le monde.
Ouais.
Andrew Cuneo qui est
une légende.
Qui joue depuis le 13.
Ouais, je ne m'attendais pas à les battre, mais comme on parlait tantôt, mon deck, je l'avais bien drafté. J'étais vraiment content.
Tu avais drafté quoi?
Bleu-noir Ingest. Okay. Puis, le deuxième booster, je le rouvre. Puis il y avait un Marshlat Expédition.
Oh yeah!
Et il y avait une com qui était super bonne pour mon deck. Puis là, ben, j'ai pensé pendant comme ben, le nombre de temps maximum. Puis là, j'ai fait OK, je prendrai pas le Marshlat. J'ai pris la com. Puis elle m'a fait gagner deux games. Là, fait que.
Mm-hmm.
Bien fait. Mais ouais, tu sais, j'étais vraiment content puis confiant dans mon deck. Puis ça j'imagine que ça a paru dans les matchs qu'on a joués. Parce que. J'ai battu trois personnes que je ne m'attendais jamais à pouvoir.
Puis là, maintenant que tu as fait le top 8, qu'est-ce que ça t'apporte comme. Quelle porte ça t'a ouvert dans le statut de pro? Où est-ce que ça t'amène tout ça?
Dans le fond, top 8, ça m'a donné 18 points, qui maintenant me donne silver. Avant, c'était plus de points, mais là, c'est rendu 18.
Okay.
En étant silver, ça me donne une invitation au prochain pro tour. Mais vu que j'ai fait top 25, j'étais déjà invité au prochain avec le billet d'avion.
Okay.
Donc, l'invitation pour pour être silver, c'est maintenant le deuxième pro tour de l'année. À moins que d'ici là, je fasse aussi plus haut dans un pro tour ou je t'appuie un grand prix ou quelque chose comme ça.
Okay.
Fait, dans le fond, de sûr, l'année prochaine, j'ai les deux premiers pro tours que je vais pouvoir participer. Puis le premier qui a le billet d'avion qui est payé.
Yes, puis c'est où?
Premier, c'est Atlanta. Deuxième, c'est Madrid, je crois.
Oh yeah. C'est génial. Quand ta passion, ben j'imagine que Magic, c'est une de tes passions, je sais pas, mais quand ça peut te permettre de voyager, là, c'est clair que ça devient ça doit être vraiment trippant.
Parce qu'avant Grand Prix.
As-tu fait des points à Québec?
Comment?
As-tu fait des pro points à Québec?
Ouais, j'ai fini 14e. J'étais à 0.04 de tiebreaker de Bélan, qui a
fait top 8. Ah oui, ça fait combien de points à Québec?
Hein?
Ça fait 2 points à Québec?
3.
3 plus, ça fait 18, plus ça fait 21, plus les 3 automatiques que tu as dans chacun des deux prochains pro tours, ça fait
27. Il manquerait 6 points pour être gold. Fait que dans le fond, j'ai spoté des grands prix que je ferai l'année prochaine. Dans le fond, il va probablement en faire probablement 7 ou 8 dans l'année, là, je crois.
Donc, il ne manque pas grand-chose. Une bonne performance au prochain Pro Tour. Puis,
ouais, si
puis il y a un autre top 14 de Grand Prix. Puis,
c'est, puis je serai goal. C'est mon objectif pour l'année prochaine là, d'être goal. Puis, ben, plus tard, on verra. Là, mais,
ça, c'est tout un jargon. Là. Je sais c'est quoi dans l'absolu, mais qu'est-ce que ça représente concrètement être gold plutôt que silver?
Ben, dans le fond, être gold, tu es invité à tous les Pro Tours okay. Et le billet d'avion est payé.
Wow,
c'est la grosse différence. T'as aussi trois bails dans les Grands Prix, là, mais mm-hmm. Ça fait une grosse différence parce que Pro Tour, dans le fond, les trois derniers Pro Tours de l'année prochaine, c'est Madrid, Australie et Honolulu. Si je le paye de ma poche, si me les paye. Il faut absolument que je fasse quoi. En gros.
Oh, Madrid, c'est pas suspect. Australie, c'est
incroyable, c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Sérieusement, je trouve que moi, ce que je trouve impressionnant de ton histoire, c'est que tu as l'air d'être très posé, puis ça a l'air super simple, facile, mais tu as comme sûrement mis plusieurs heures de préparation. Là. Est-ce que combien d'heures par semaine ça représentait Magic en préparation pour, dans l'année là, que tu viens de faire, pour être capable de te classer aussi haut? Il y a clairement du talent, mais il y a de la préparation aussi. Combien d'heures par semaine tu penses qu'il faut jouer à Magic pour être capable de passer de « Ah, ben je reviens à Magic, je joue de temps en temps » à « Je fais jour 2 de Grand Prix et tu as plus d'un Pro Tour » tu sais, au sens où qu'est-ce que ça représente comme travail dans une semaine pour pouvoir arriver à ce niveau-là, selon toi?
Beaucoup, je dirais, là, parce que tu sais, au début de l'année, là, souvent, ce que je faisais, c'est, mettons, je travaille dans la journée, puis le soir, je finis, mettons, je sais pas, à 7-8 heures, puis je faisais un daily, quand les dailies étaient rentables, pas comme ils sont maintenant.
Ouais.
Puis je faisais pratiquement à chaque soir. Puis le vendredi, bon, mettons, j'allais faire les FNM. Puis ben la fin de semaine, souvent, il y avait un tournoi, fait que j'allais faire ça. Mettons, le soir, le samedi ou le dimanche. Là.
Okay.
Dans les périodes où il y a des gros tournois que je vais me préparer, c'est ce que je vais faire. Là. Fait que par semaine, c'est beaucoup d'heures. Là. Si tu comptes que tu travailles aussi, puis tu vas faire un tournoi la fin de semaine, là, c'est beaucoup de temps, mais... dans le fond, c'est un choix.
C'est à peu près 25 heures par semaine.
Un délai, c'est quoi? C'est mettons, 3 heures et demie, 4 heures.
Wow. Ah, quand même, hein, ça prend beaucoup de détermination faire ça.
Oui, ben, on dirait que c'est plus facile quand tu vois qu'il y a des résultats. Si tu fais ça sans arrêt, puis à chaque fois que tu fais un tournoi, tu es comme à 2 victoires de top 8 ou tu fais pas des tout, quelque chose comme ça peut être plus rough. Mais quand tu vois des résultats, ben, ça se fait quasiment tout seul parce que j'ai le goût d'aller jouer pour me pratiquer.
Génial. Puis pour les prochains événements, toi, avec le regard que tu as sur Standard, je sais qu'aujourd'hui, il y avait Grand Prix. C'est quoi, c'est Indianapolis?
Oui, Indianapolis. Moi, j'aurais dû y aller.
Ah ouais, hein?
Oui, Bélan me l'a proposé. Puis là, j'ai dit, ah, ça ferait 3 fins de semaine que je suis à l'extérieur, puis tu sais, travailler pendant la semaine, puis tout. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait 3 Grands Prix en même temps. Il y a beaucoup de pros qui étaient splittés, fait que j'aurais dû.
Non, c'est ça, ça avait l'air d'être un field, une espèce de... Moi, j'ai regardé les bouts de la couverture médiatique, puis les commentateurs disaient « c'est un Grand Prix un peu spécial, il y a des joueurs qu'on ne s'attendait pas qui soient là, il y a des erreurs qu'on ne voit pas tout le temps. »
Comme il y en a un qui a eu un game loss dans le top 8 aujourd'hui.
Ah ouais, hein?
Sa liste était mal rentrée. Mal écrite, puis ben, finalement, ils l'ont vu seulement dans le top 8. Fait que soit il décidait d'avoir sa liste comme elle était écrite, puis il aurait pu, ou il la garde comme lui, il la jouait, puis il acceptait un game loss. Puis finalement, ben, il jouait comme un... Il jouait Bent Ardenscale. Puis, dans le fond, il n'y avait pas son laine bleue, là, le Prairie String. Il l'avait pas mis dans sa liste.
Oups.
Fait que là, il avait écrit plaine à la place. Genre, il avait écrit une plaine.
OK.
Fait que là, soit il décide d'avoir un game loss avec, puis garder son LAN, ou il mettait deux plaines, puis il n'y a pas de game loss. Finalement, il gardait son LAN, il y a un game loss, puis il perdait celle d'après. Fait qu'il était éliminé.
Ouais, c'est ça, puis.
C'est du good job.
Ouais. All right. Ouais, fait qu'effectivement, t'aurais dû être là. Puis est-ce que tu aurais joué le même deck, tu penses, ou est-ce que tu as pensé avec d'autres decks?
J'aurais peut-être fait des modifications, mais ouais, le deck, je l'aime vraiment gros.
Résilient.
Ouais, tu sais, toutes les cartes sont bonnes. Puis, tu sais, exemple pour Grand Prix Québec, j'avais modifié dedans, tu sais, j'avais mis deux Knight of the White Orchid dedans.
Ouais.
Ouais. La créature, il y a deux coups de deux blancs, qu'est-ce qu'il y a en jeu?
C'est un land.
Ouais, tu vois, c'est un land en jeu. Puis j'avais, ça, en combinaison avec Nissa, fait que tu manques pratiquement pas de land drop. Mm-hmm. Puis le deck est tellement bon que si tu veux juste pouvoir jouer tes cartes au bon moment, ben, tu devrais gagner. Parce que, en général, tes cartes vont être meilleures que celles des autres. Mm-hmm. En gros, c'est pour ça que j'avais mis ça. T'sais, tu posais la question tantôt, justement par rapport à, exemple, Nissa.
Ouais.
Comment elle fonctionne dans le deck, je te parlais de ça en même temps.
Oui, ouais, bien sûr, ouais, absolument. Parce que moi, ce deck-là, je regarde, puis je suis comme, je le trouve vraiment fort, résilient, efficace, tout ça. Mais en même temps, je me demande un peu, il y a des cartes, là, c'est quoi, pourquoi ce deck-là, plutôt que, mettons, Abzan, par exemple, qui va jouer des Ben Protector aussi, mais qui va t'ouvrir pour Abzan Charm, qui est une carte super bien positionnée, également pour. Il joue. Ben, c'est Drino, donc pourquoi aller vers Green-White quand on peut aller avoir du noir assez facilement? Quoique, c'est sûr qu'il y a la mana base qui va faire que peut-être tu n'auras pas ton vert au premier tour, mais ouais, c'est ça. J'irais vers cette direction-là, te demander, toi, qu'est-ce que tu aimes de Green-White? Puis justement, c'est quoi le rôle de Nissa dans ce deck-là? Parce que Nissa qui est souvent absente d'Abzan, par exemple.
Ben, j'aime mieux Green-White qu'Abzan parce que je trouve que le deck est plus constant.
Okay.
En étant deux couleurs, c'est plus facile. C'est plus facile de bien sortir à chaque game.
Mm-hmm.
Aussi, tu ne joues pas nécessairement exactement les mêmes cartes que Abzan. En tout cas, des fois, c'est une question de match-up pour les cartes que tu joues, les Rumble que tu joues, puis tout ça. Là.
Ah
ouais. Mais ouais, Nissa dans le deck, dans le fond, je trouve qu'elle est bonne juste parce qu'elle va te chercher un land.
Okay.
Puis probablement qu'elle va se faire tuer parce que tout le monde.
Oh, oui, tout le monde.
Mm-hmm. Mais c'est bizarre, mais souvent elle va pas mourir.
Okay. Puis,
à chaque tour, tu vas jouer quelque chose, l'autre il va tuer l'autre chose que tu joues parce que c'est une meilleure carte. Puis là, ben, Nissa est là, puis elle attend. Là, d'un coup, tu arrives à ton 7e land, puis ben, elle est rendue un plein sur le jeu. Tu fais plus, ben, même si lui est là-dessus, ben, tu as quand même une carte. Tu fais moins, tu as un 4-4 quand même. Mais le plus souvent, c'est je l'ai pas encore, puis là finalement, on est plus tard dans le game. J'ai comme 6 ou 7 lands, je le joue, il va me chercher un land, puis elle flippe tout de suite. C'est la majorité du temps, c'est ce qui va se passer. Là.
Okay.
Mais je trouve qu'il est vraiment utile dans le deck parce que je commençais à penser à ça parce que souvent je manquais des land drops. Puis
okay.
C'est pour ça aussi que c'est ça qui m'a amené à jouer Knight of the Wild Orchid dedans.
Mm-hmm.
C'est parce que le deck, tous les decks maintenant, ils jouent 10, 11, 12 fetch. Là.
Ouais, c'est fou.
Les decks standards, on dirait qu'ils en jouent autant. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai tendance à manquer des land drops, mais. Dans le fond, c'est pour ajouter de la constance dans le deck que j'ai rajouté, que je trouve que Nissa est bonne. Puis le Knight of the Wild
Orchid. Ouais, c'est ça. J'ai vu justement dans le Grand Prix, il y avait le finaliste là, Ray Perez,
ouais.
Qui jouait Esper Token. Puis il en jouait probablement que c'était une carte de sideboard. Je sais pas, là, j'ai pas vu sa liste au premier match, mais il jouait ça dans Esper. Fait que je suis en train de me dire que c'est peut-être une carte qui tranquillement est en train de. Faire sa place en standard dans certains contextes. C'est intéressant de voir où est-ce que standard s'en va. C'est un format très ouvert. Je ne sais pas, toi, comment tu apprécies standard en ce moment?
Ben, j'aime bien le standard. C'est juste que on dirait qu'il faut que tu joues certains decks. Sinon, tu joues un deck complètement moins bon.
Okay,
si tu joues Jeskai Black, Green White Megamorph, des fois tu peux mettre du bleu dedans, ou tu sais, le Sphere Control. T'sais, si tu ne joues pas ça, ben ouais, non, il y a Abzan aussi. Là. Si tu ne joues pas un de ces quatre decks-là, ça se peut que tu gagnes. Mais on s'entend que dans les top 8, c'est pas mal les seuls decks qu'on voit.
Ouais.
Garden Sky, des fois, qui va se rendre. Mais.
Il y a eu Bring to Light au début, mais là.
Ouais. Je n'ai pas joué beaucoup contre ce deck-là. Fait que je sais pas si c'est une question de constance qui fait que le deck ne se rend pas jusqu'à la fin. Là, mais...
ouais, je pense que c'est ça, effectivement.
Mais ouais, sinon, je trouve que le format il est bien. J'ai hâte de voir. Ce qu'ils vont rajouter avec le prochain set. Mais présentement, je trouve que Jace est comme un petit peu trop bon. Hein.
N'importe qui
qui joue Jace, on dirait qu'il y a comme un avantage, même si c'est juste une carte.
Mais c'est ça. Mais nous, notre épisode sur le format de la semaine dernière, on trouvait que justement, c'était probablement Jace qui définissait le format. T'sais, autant c'était Cedrino avant, maintenant, c'est plutôt Jace qui définit le format. Quoique là, tu vois, il était... pas aussi dominant à Indianapolis. Il était présent, évidemment, mais pas aussi dominant. Mais c'est sûr, quand une carte définit le format, tout le monde cherche des réponses. Puis, ben, c'est ça. Tout le monde a un deck qui est capable de répondre à Jace en ce moment.
Ouais.
Mais ça crée d'autres brèches, puis là, le format va s'ajuster, puis Jace va redevenir bon, puis c'est certain, la vie de Jace en standard va être...
Parce qu'il y a des pros qui disaient que Jeskai Black ou Jeskai Tuco est un deck viable seulement parce que Jace existe. Okay. S'il n'était pas là, ce serait beaucoup plus dur ou impossible de gagner avec ce deck-là, parce qu'il te rajoute tellement, tu sais, il permet de piger une carte, puis de discarter une carte pas bonne, tu sais, fait qu'il donne tes land drops des fois, rejouer des cartes.
Il est tellement
Jace est à tout.
Ouais, c'est excellent. Écoute, super, ça fait un bon topo. Fait que moi, en tout cas, je suis content de voir qu'il y a un joueur qui, par le travail, réussit à se rendre à un haut niveau. Parce que moi, ça, c'est quelque chose que... Il y a quand même pas mal de gens talentueux à Magic, quand même. Je connais pas mal de monde qui sont quand même talentueux à Magic, mais c'est de prendre le temps de s'arrêter, de mettre les heures pour en arriver à un niveau là, aussi élevé. Je trouve que c'est vraiment bien intéressant. Fait que Renaud dans
bon.
Le... Ouais! On va commencer ça, ce show-là, mon Renaud!
Pire, Ricky! Peut-être vas-tu passer dans la porte quand tu vas sortir chez vous?
Ben, j'espère que oui!
Est-ce que tu signes des cartes maintenant quand tu vas dans les magasins?
Ben, j'ai signé une carte.
OK.
Pour monsieur bon. Raphaël Boisvert.
Oh yeah!
Vraiment pas quand même. Parce que c'est une carte tellement trop bonne que...
Ouais.
Mais ouais, c'est un peu ça, là, mais Grand Prix.
Vous avez parlé de quoi, la dernière seconde?
T'as juste à être là. Je t'écouterai l'épisode.
Ouais, je me souviens pas, ça fait trop longtemps. Ouais, il y a beaucoup de monde qui disait j'ai joué ta liste, puis j'ai essayé mardi passé, là, puis c'était super bon, fait que j'ai joué ça aujourd'hui. Ah, ouais, je l'aime vraiment, en gros. Et donc, tu sais, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, puis là, je me suis dit, bon, ouais. C'est le fun qui me reconnaissent. C'est pas moi qui ai inventé, on s'entend. Là. Mais le sideboard, j'ai changé un peu, puis la façon de le jouer, puis tout ça. J'étais vraiment content.
Super. Puis là, dans le fond, pour la fin de l'année, y a-tu d'autres événements ou ça va vraiment aller en 2016
avec je vais peut-être faire Grand Prix Pittsburgh. Je n'ai pas encore décidé si j'allais le faire ou pas, c'est moderne.
Okay.
Mais ouais, ça serait le seul. Il y a un tournoi en décembre, je pense. C'est 3K à Québec.
Okay.
Ouais, fait par Mana Deprive, en affaire de France. Sinon, ouais, c'est pas mal mort en termes de tournoi.
Qu'est-ce que tu joues en moderne? Pas nécessairement qu'est-ce que tu vas jouer à ce Grand Prix-là, mais mettons, en ce moment, tu jouerais quoi en moderne?
Ben, je joue pas mal tout le temps Affinité.
Okay.
Parce que je pense que c'est le meilleur deck.
C'est très fort.
C'est Grixis, je pense. Les versions, autant Grixis Delver que Grixis Twin ou peu importe. Là. Mm-hmm. Donc, c'est ça le meilleur deck. Là. Mais Affinité, je le joue depuis tellement longtemps que.
Affinité, c'est le meilleur deck, sauf contre Twin.
Ben, tu sais, je suis pas d'accord. C'est bizarre. Parce que c'est sûr que si le gars. Non,
Laisse-le parler, là. Je veux entendre.
C'est sûr que si le... moi ou...
Oui, toi, ben oui, Renaud, okay. Il est tout en partie, mais oui.
Ok. C'est sûr que si le gars, il fait tout le temps tour 3 Exarch, exemple, puis tour 4 combo, puis il fait à chaque game, il fait ça, puis toi, t'as jamais ton burn pour le tuer, c'est sûr qu'il va gagner, là. Mais, tu sais, parce que, ça dépend des listes que tu joues, mais maintenant, je joue des Space Cat Main Deck, 4 Galvanic Blast. En sideboard, tu as d'autres cartes aussi. Le gars, s'il respecte pas le fait que tu peux avoir la Lightning Bolt, le qui fait 4, il va accepter qu'il y a comme une game sur 2 ou une game sur 3 qu'il va perdre parce que tour 4, il va décider d'avoir slamé son Splinter Twin et il va perdre. Fait que c'est sûr que si tu joues contre quelqu'un qui, dès qu'il l'a, il le fait, ben, c'est sûr que ça peut être rough si toi, tu n'avais pas Mulligan pour avoir ton Galvanic Blast, là, mais...
Ouais, mais souvent, tour 2 ou 3, il faut que tu tapes, puis tu y feras pas nécessairement le 2 pour 1, parce que souvent, tu dois le Gav Blast de...
Ouais, c'est un exemple, si...
Avant que tu tapes ton mana de couleur, ou tes shorts sur le mana, parce que, ben, c'est Affinity, t'es quand même tout le temps tête pour jouer tes cartes, mais c'est pas ça, le... Moi, je disais ça en me fiant sur les pourcentages de match-up gagné. L'agrégation des chiffres là, sur MTG Goldfish, des match-ups de toutes les games qui ont été jouées sur MTGO, puis Affinity est à 35% de match-win à peu près contre Twin, tandis que contre toutes les autres match-up, c'est au-dessus de 50%. Fait que...
Ouais, mais... Ouais, ouais.
C'est sûr qu'il y a moyen de gagner, mais c'est quand même difficile. Là. Surtout qu'après Sideboard, s'ils ont accès à des affaires comme ils sont préparés, puis ils ont eu Kills Record, puis...
Ouais, mais tu t'habitues à jouer contre ça. Là. Comme exemple, j'ai gagné beaucoup de games que le gars, il fait tour 2 Stony Silence. Et tu te dis, oh shit, cette carte-là est super bonne. Puis elle bloque la majorité des choses que tu fais. Mais si après ça, tu sais qu'il joue blanc, exemple, puis tu enlèves les bonnes cartes, il y a beaucoup de games que je gagne, même quand l'autre, il joue ça. Puis même chose pour Rockel's Recall. C'est sûr que c'est bizarre s'il joue ça dans Twin. Je me suis pas l'avoir déjà vu avant. Il n'y a vraiment pas affinité pour faire ça. Mais ouais, c'est sûr que Twin, c'est un des meilleurs decks. Là, fait que...
Ouais, ben, il y avait le SCG Open, c'était moderne.
OK.
Puis là, c'était Zoo, là. C'était Zoo qui était dans...
Ouais.
Je sais pas tout. Quoi. Il y avait genre 16 Wild Makati dans top 4.
Ouais. C'est comme... Ouais. Ben, pour Allègre aussi, il y a beaucoup de Zoo aujourd'hui, là.
Ah oui?
Ça, c'est... Beaucoup de Zoo, de Naya Burden, puis de Knight of the Reliquary, là.
Ouais, c'est ça qui se passe, hein. Puis Affinity contre ce deck-là, ça doit bien fonctionner, j'imagine.
Ouais. Ouais, d'habitude, c'est de la gamer, absolument, tu vas la gagner parce que l'autre, il fait pas grand-chose. Il joue ses créatures, puis il y a très peu de removal, puis t'as un meilleur deck aggro que lui. Après ça, tu sais pas s'il va rentrer sur Nissalens ou Kataki, fait que, il faut que tu guesses un peu, puis normalement, mettons, tu parles à game 2, après ça, tu sais ce qui... tu sais quelle carte qui rentre contre toi, fait que tu peux mieux s'aider, puis
est-ce qu'en moderne...
Mais habituellement, dès qu'il y a un aspect combo au deck, il y a un peu son pourcentage de chance de gagner de augmente. Puis s'il essaie de jouer plus mid-range ou juste même aggro, là, t'es plus vite que lui. Peut-être infect. Là.
Moi, il y a infect, c'est probablement 50-50, mais en même temps, tu joues des Galvanic Blast, qui le gars, comme qui te respecte un petit peu.
Ouais, puis toi, en ce moment, là, dans... disons, entre limité, standard et moderne, dans quel format tu te sens le plus solide? C'est sûr que là, tu reviens d'un 8-0 dans un Pro Tour en standard. J'imagine que c'est standard, mais est-ce que ton match, ta game en moderne, tu la sens aussi préparée?
Oui. Ben, avant le Pro Tour puis le Grand Prix de la semaine passée, j'aurais dit moderne, c'est mon meilleur format.
OK.
Parce que je connais pratiquement tous les match-ups, puis je connais mon deck, puis tout ça. Mais en fin de semaine, j'ai fait 12-3, puis l'autre 8 zéro. Fait que je me dis, ben, il doit y avoir quelque chose que je fais bien en standard.
Mm-hmm. Fait que t'es dans ta game en ce moment. Fait que c'est un bon moment pour aller te chercher ton statut de Gold Pro. Hein. C'est vraiment...
Ouais, exact.
Excellent. Ben, on va te souhaiter bonne chance dans ta quête pour devenir Gold. On va suivre ça avec intérêt.
Merci de l'avoir reçu. Tout.
Ben, c'est un grand plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est tout le temps...
Couleur de l'Estriasie.
c'était la blague de l'épisode. Ouais, puis écoute, Renaud, moi je suis heureux de t'avoir revu. On va se revoir bientôt, je l'espère. Moi, c'est dans le fond, c'est une question de prendre le temps, puis de se voir, puis de se faire ce petit balado-là. C'est justement un entretien comme ça avec un joueur québécois comme toi, Ricky. C'est exactement pour ça qu'on a créé la balado, pour être capable d'apprendre à connaître nos joueurs, ceux qui font bien, puis leur donner un endroit pour se faire découvrir. Puis,
oui, puis là, on a une liste qui s'allonge, là. Nicolas Bellac, qui fait top 8.
Ben oui, là.
Alors, hey, on s'est dit, Nicolas, on le recevra jamais.
Non, il est trop.
C'était Daya Blitz, puis c'est tout, là.
C'est ça, exactement.
Il nous porte la main, le salaud.
Ça doit être à cause de sa manabase d'expédition qu'il a gagné.
C'est clairement possible.
Les adversaires étaient aveuglés, là. Il n'y a rien.
Ah, peut-être, oui.
Il réussit beaucoup trop, c'est sûr, je perds. C'est ça qu'ils sont.
Il voyait la main de ses adversaires dans la réflexion.
Mais j'avais pas remarqué que c'était toi qui étais juste... T'étais 9e, dans le fond?
Non, j'ai fini 14e.
Okay, c'est ça. Fait
mais
que
de 7 à 15? La 7e place à la 15e place ou 16e place, tout le monde avait 36 points.
Okay.
Puis le 7e, il y avait 0.70 de tiebreaker. Puis moi, j'étais à 0.66.
Okay.
Là, il est à 0.69, fait que c'était vraiment, vraiment proche. N'importe qui aurait pu être à la place d'un ou de l'autre, là, tout dépendamment qui gagnait dans les autres matchs.
OK, ouais, ça c'était vraiment tight. Bon, mais sur ça, messieurs, je pense que ça va être la fin de ce magnifique épisode. Vicky, je te remercie d'avoir été présent.
Ça fait plaisir.
Est-ce que, mettons, est-ce que tu es sur Twitter? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent... Est-ce que tu as activé l'option pour te suivre sur Facebook? Parce que ajouter des amis, c'est tout dans le monde, mais pour s'abonner, des fois, ça peut se faire. Je ne sais pas si tu as ça.
Ben, je pense que oui, mais je ne pourrais pas te dire comment.
Je vais aller voir si je peux m'abonner, puis okay. On le mettra sur notre page.
Oh, bon, parfait.
Ah ouais. Puis Renaud, on peut toujours te suivre sur Twitter, toi qui es actif surtout en période politique et pendant les matchs des Canadiens.
Si vous voulez entendre parler de n'importe quoi d'autre que Magic, suivez-moi sur Twitter.
Excellent, merci.
Non, sur MTG Sherbrooke.
Ouais.
Non, mais je suis pas mal moins actif maintenant que je joue moins. Là.
C'est pas grave, ta voix est toujours aussi mielleuse.
Ah, tout à fait, tout à fait. Mais je devrais recommencer... à jouer un petit peu plus ouais. Là, cool. vers le mois de décembre. Là.
C'est bon ça, excellent. Ben, sur ce, mesdames, messieurs, bonne soirée et on se revoit, mettons la semaine prochaine, mais ça va peut-être dans deux semaines, dans trois. Bye tout le monde.
Salut.
Ciao.